Être ou jouer ? Jouer ou être joué ? La situation, vous devez la manger. Le silence provoque l'action. Qu'est-ce qu'une émotion véritable ? Être le rôle ou le personnage ? Vivre ou jouer au présent ? Être une actrice ? N'être qu'une actrice ? Telle est la question.
Pascal Paradou.
Ces jours-ci, Valérie Dréville ne joue pas au théâtre, mais elle se raconte dans un livre, ou plutôt elle raconte son métier, ce travail et quelques-unes des rencontres de théâtre qui ont marqué sa vie. Depuis Antoine Vitesse dans les années 80, à Claude Régis, Anatoly Vassiliev, Thomas Ostermayer, Christiane Loupa, Romeo Castellucci, soit quelques-uns des plus grands metteurs en scène européens. Bonjour Valérie Dréville.
Bonjour.
Alors vous ne jouez pas, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à l'affiche d'un théâtre, du moins à ma connaissance, mais est-ce que cela veut dire que vous ne travaillez pas ?
Non, enfin, je joue pas. Je suis quand même en tournée avec le spectacle de Sylvain Creusevaux, Edelweiss, France Fascisme. Donc, en ce moment, je suis pas en tournée, mais j'y étais il y a quelques jours et j'y serai dans quelques semaines.
Mais vous aimez les temps morts ? Ne pas être sur scène ou au contraire, ça vous manque et ça vous tourmente ?
Il faut absolument avoir des temps de respiration, oui, oui, oui. C'est très nécessaire pour rêver travailler. Par ailleurs, je donne des cours au conservatoire, donc je ne m'arrête pas vraiment, à vrai dire. Ça continue toujours, quelque chose continue toujours, la pensée continue toujours, l'attention. J'en profite pour lire des pièces que je n'ai pas lues, pour lire des choses que je n'ai pas lues. J'ai plus de travail encore que quand je travaille, parce que quand je travaille, c'est un peu...
Obsessionnel,
le temps est un peu compté, alors que là, bon, j'ai tout mon temps, mais du coup, je n'en ai plus aucun.
Au début de votre livre, vous citez Shakespeare, « Être prêt, tout est là ». Donc, c'est important d'être disponible.
Oui, moi, je suis quasiment convaincue que tout le travail de l'acteur se fait, disons, à 70% hors de la salle de répétition. Parce que si vous arrivez en salle de répétition avec aucun rêve, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez répondre aux tâches de la mise en scène, le mode d'emploi extérieur du spectacle. Mais ce qui compte, c'est votre rêve. C'est le rêve du personnage, c'est ce que vous voulez faire. Loupa, il utilise une métaphore que j'aime bien. Il dit que l'acteur, avant la première, il engrange des petites bombes qui vont exploser le jour de la première. Voilà, il faut les fabriquer, ces petites bombes, ces provocations,
Votre livre raconte cela, les préparations, ce qu'est concrètement votre métier, votre pratique, comment vous construisez un personnage. Il ne raconte pas tellement les premières et la vie d'artiste, il raconte vraiment le travail avant les spectacles et pendant les répétitions. Il est précédé d'une préface signée Thomas Ostermayer, le directeur de la Schaubühne à Berlin, qui dit tout de go, « Valérie Dréville est une actrice d'exception. » Or pourtant... Votre livre s'intitule « L'art du débutant ».
Alors... Oui, mais le paradoxe, c'est bien. Et puis, c'est lui qui dit ça, c'est pas moi.
Mais vous êtes une apprentie permanente.
Bah, je pense que c'est le meilleur moyen de ne pas se figer. De ne pas devenir quelqu'un qui croit tout savoir, alors que c'est un métier où on ne peut pas savoir. C'est une expérience continue. Antoine Vitesse disait... il parlait du cahier d'exercice perpétuel. On réessaie sans cesse, ou comme disait aussi... c'est pas Bond, c'est... rater mieux, rater mieux. On essaie de rater mieux.
Rater mieux. C'est un livre pour qui, pourquoi ? C'est un livre de transmission pour les... jeunes actrices ou jeunes acteurs ?
pour qui est intéressé par l'artisanat, le travail, le théâtre, les personnages, pour qui veut. Je ne sais pas pour qui c'est destiné, pour qui le prendra.
Vous lisant, en tout cas, on comprend très très concrètement comment c'est fait, comment c'est fabriqué, comment c'est construit. Et c'est un sacré boulot.
Oui, c'est beaucoup de travail. Oui.
Le sous-titre du livre dit « Le travail de l'actrice sur elle-même ». Ce travail vous permet, être comédienne, vous permet de comprendre ce que vous êtes, vous, Valérie Dréville ?
Regardez, quand vous jouez un personnage comme Médée, vous êtes mis dans une situation extrême, n'est-ce pas ? Cette situation extrême vous demande de faire un acte, c'est-à-dire de faire un choix. Faire un choix dans une situation extrême, même si c'est dans une fiction, et a fortiori si c'est dans une fiction, parce que dans la vie, on ne pourrait pas le supporter, vous permet de savoir qui vous êtes dans cette situation extrême. Voilà, ça c'est une chose. Donc, dans ce sens-là, oui. Pour arriver à travailler dans cette situation extrême, il faut surmonter un certain nombre de blocages, de difficultés, de limites. Dépasser des limites, ça aussi, ça nous renseigne sur nous-mêmes. Alors que quelquefois, dans la vie, on n'a pas accès. On n'a pas accès à soi-même. Le métier d'acteur est peut-être le métier... On est chanceux parce que c'est peut-être le métier où la personne peut plus, le plus s'éprouver elle-même, éprouver son instrument. Nous, on n'est pas comme les musiciens, notre instrument, c'est nous-mêmes. On n'a pas un piano, un violoncelle. Notre instrument, c'est nous-mêmes, notre mémoire, notre biographie, notre pensée, le cœur. On doit travailler dessus, sinon avec quoi ?
Vous avez toujours su que vous vouliez être actrice ?
Non, pas toujours, non. C'est venu au moment d'une crise. Voilà, c'est venu comme un choix, justement. C'est-à-dire, c'était la seule manière de sortir de la crise.
Très jeune. Adolescente.
Oui, adolescente, disons, vers 17 ans.
Et vous avez eu très vite, comme professeur au conservatoire et au Théâtre National de Chaillot, Antoine Vitesse, dont on va parler.
Pas au conservatoire. Je n'ai pas eu Vitesse au conservatoire.
Vous l'avez eu à Chaillot.
Et je l'ai eu à Chaillot. Au conservatoire, j'étais avec Claude Régis.
On parlera de l'un et de l'autre. On racontera aussi votre travail avec le metteur en scène russe Anatoly Vassiliev, qui a été essentiel pour vous. Mais tout cela après Gérard Mancé, car vous ne le savez peut-être pas, Valérie Dréville, mais avec lui sur la Lune, on danse.
Que je l'ai rencontré pesante, les jambes écartées. Je l'ai vu partir en allunissant dans le froid finissant. Aucun amour ne dure, il n'est fait
Gérard Moncé sur RFI, artiste rare et discret, mais particulièrement créatif, puisque L'Algue Bleue, son nouvel album, est le 24e. Valérie Dréville, on revient sur les planches avec votre essai L'Art du débutant, où vous racontez votre travail de comédienne, mais donc pas tant les premières et la gloire, mais la fabrication, le laboratoire. C'est ce que vous a enseigné Antoine Vitesse. Que dire de lui aujourd'hui, un peu plus de 30 ans après sa disparition? Qu'il fut l'un des très grands metteurs en scène français, qu'il dirigea la Comédie française et auparavant le Théâtre national de Chaillot, vous l'avez rencontré, mais ça ne dit pas son enseignement, ça ne dit pas ce qu'il était.
Je dirais, avant d'être un grand metteur en scène de théâtre, il était tout simplement un poète. Il écrivait sur le théâtre. Il écrivait de la poésie. C'était un homme de théâtre. Voilà, c'était un homme de théâtre. C'est-à-dire que il avait un regard sur le théâtre qui dépassait sa personne, sa carrière. Il avait un projet pour le théâtre. Il avait une pensée sur le théâtre. Il nous a transmis quelque chose de très précieux pour des jeunes gens à l'époque où je l'ai connu, moi.
Mais comment nommer ce quelque chose ?
Je dirais la liberté. C'est quelqu'un... d'ailleurs, il avait... Quand il est passé au conservatoire, il a, d'une certaine manière, il a fait exploser une certaine convention qu'il y avait à l'époque. Il y avait l'enseignement dit classique et l'enseignement moderne, avec les prix, etc. etc. Tout ça s'est transformé en grande partie grâce à son passage. Et en effet, moi je me souviens à Chaillot, on avait le sentiment qu'il n'y avait plus de barrières, il n'y avait plus d'emplois, il n'y avait plus de... on pouvait tout faire.
De lui, vous dites que ce fut un maître. Et c'est un mot qui revient souvent dans votre livre « L'art du débutant oui, ». C'est un mot que vous voulez réhabiliter.
C'est pas du tout un mot à la mode. Au contraire, tout le monde s'enfuit au courant dès qu'on prononce ce mot. Mais moi, je peux pas utiliser un autre mot. Mais simplement, je voudrais bien, en effet, dire ce que c'est pour moi. Parce que en général, c'est compris, ce mot de maître, comme celui qui sait, comme une sorte de gourou. Et moi, je pense que c'est l'absolu contraire. C'est un maître, c'est quelqu'un qui est témoin du processus de l'acteur et qui lui renvoie comme un miroir. Ainsi, l'acteur n'a plus besoin... Il ne peut que s'adonner à l'organique, à son intuition. Pendant qu'il joue, il n'a pas besoin de se demander s'il joue bien ou mal. Le maître est là pour lui dire. Ce n'est pas le cas de toujours les metteurs en scène, voyez.
Vitesse disait souvent, c'est vous qui le racontez, je ne sais pas. Donc oui. C'est ça le propre d'un maître.
Le maître, comme dit Rancière dans son livre « Le maître ignorant », le maître peut tout à fait faire advenir quelque chose que lui-même ne sait pas encore, mais qui va être révélé par l'acteur. Il disait « je ne sais pas » parce que justement, la chose devait arriver du plateau. il savait, mais il savait que ça allait advenir. Il ne voulait pas dire quelque chose de théorique, parce que quelque chose de théorique ne fait pas pousser des fleurs sur le plateau. Ce qui fait pousser des fleurs, c'est la vie, c'est le processus organique. Et il voulait plutôt être comme celui qui lit les oracles, c'est-à-dire celui qui lit ce qui n'est pas encore visible. Et il nous disait souvent, tu es en train de faire ça, augmente-le, ou au contraire, diminue, enlève. Il nous donnait la responsabilité, en fait, du plateau, et la liberté, du coup.
Sous sa direction, Valérie Dréville, vous avez joué en 87 dans Le Soulier de Satin, spectacle fleuve, spectacle historique, une nuit entière dans la cour d'honneur du Palais des Papes au Festival d'Avignon, Le Soulier de Satin de Claudel, où l'amour absolu est empêché de Prouesse et Rodrigue.
Le Soulier de Satin a pour effort de représenter le monde, la totalité du monde. Dans ce sens-là, d'ailleurs, le travail de la mise en scène est particulièrement difficile parce qu'il faut essayer de représenter le monde entier. Alors, il faut passer d'un style à l'autre, d'une image à l'autre. Moi, je ne suis pas catholique. Je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en la vie éternelle. Et je me dis néanmoins que cette œuvre me touche et j'essaie de comprendre pourquoi elle me touche si fort. Je pense que ce texte, qui n'est pas du tout un texte sur l'Espagne du XVIe siècle, qui n'est là que comme un masque, vraiment, c'est un texte qui, à nous, enfin à ceux qui ont participé de cette utopie, tous ceux qui ont pensé dans leur tête individuelle la totalité du monde, qui ont essayé de mettre en relation leurs actions propres, personnelles et intimes, et leurs actions dans le monde, tous les gens qui ont eu l'idée d'une transcendance, quelle qu'elle soit, et de toutes les tragédies du monde, je pense qu'ils sont très armés pour comprendre une œuvre comme Le Soulier de Satin. Vraiment très armés.
Valérie Dréville, souvenir vif que celui d'Antoine Vitesse que l'on vient d'entendre.
Comment vous dire? Et je ne me suis jamais remise, en fait, de sa disparition.
En 1990.
C'est une perte irréparable. Justement, à cause de ça, à cause de cette pensée active qui redéfinit qu'est-ce que c'est que le travail du théâtre, qu'est-ce que c'est que l'art, qu'est-ce que c'est que l'art du théâtre, qu'est-ce que c'est que l'art de l'acteur. Moi, à cette époque-là, je ne voulais rien d'autre que d'être à ses côtés. Ça m'était égal de jouer, de ne pas jouer. Je voulais l'entendre, je voulais vivre de cette pensée. C'était une pensée qui me donnait de la vie.
Avec lui, vous allez à la Comédie Française, parce qu'il est nommé à la Comédie Française et vous le suivez pour être à ses côtés. Et il vous permet de faire une rencontre assez décisive que vous racontez dans votre livre « L'art du débutant ». C'est cette rencontre avec Anatoly Vassiliev, donc metteur en scène russe, assez radical, qui a une méthode de travail très, très précise et très stricte. Ensemble, vous montez, enfin, vous jouez dans le bal masqué de Lermontov que Vassiliev met en scène à la Comédie Française. Et en début d'émission, je citais quelques phrases. La situation, vous devez la manger. Le silence provoque l'action. En fait, ce sont des citations de Vassiliev. Quel maître a-t-il été?
C'est une question difficile à répondre en peu de temps. J'ai rencontré Vassiliev à un moment un peu critique pour moi, puisque Antoine Vitesse venait de mourir. Donc, mon maître n'était plus là. Et j'étais dans un lieu où il fallait être professionnel, la Comédie Française. Et j'étais jeune. Et j'avais le sentiment que je n'avais pas fini mes études, en quelque sorte. Ou que j'avais envie de les continuer. Ou que je n'avais pas envie que mes études soient derrière moi, mais devant. C'était un sentiment diffus. Toujours cette histoire de l'art du débutant. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Vassiliev à la Comédie Française qui faisait sa distribution du bal masqué. Et j'ai compris tout de suite, en entrant dans le bureau, que je faisais une rencontre décisive. C'était une intuition, évidemment. Je n'avais aucune certitude, mais j'ai senti que c'était un moment... Vous savez, comme on a la sensation du destin, parfois. Et ça s'est avéré vrai. Quand on a commencé à répéter, j'ai vu qu'en fait, il ouvrait quelque chose que je connaissais mal, qui est l'école russe de Stanislavski.
Donc, grand maître du théâtre du début du XXe siècle, Stanislavski.
Absolument. Parce que Vassiliev est un héritier quasiment direct de Stanislavski. Son professeur était Maria Knebel, qui était elle-même une des dernières élèves de Stanislavski. Donc, c'est vraiment à quelques générations, l'héritage et la transmission est directe.
Et il vous apprend une autre façon de construire les personnages.
Oui, qu'est-ce qu'il apprend ? Il apprend le travail de la situation. Le travail de la situation, je le connaissais mal. On le connaît mal en France. Ce qui est... en tout cas dans ma jeunesse, maintenant ça a sans doute un peu changé, mais dans ma jeunesse, ce qui était premier, c'était la parole, le langage. Situation, on en parlait moins. Et ça change tout, de commencer par la situation.
Donc la situation, c'est pourquoi ce personnage fait ceci.
La situation, elle est déterminée par les circonstances. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est arrivé avant la pièce ? Quelle est la circonstance essentielle, la circonstance active, agissante de Nina, par exemple, quand elle arrive au premier acte pour jouer la pièce de Treplev. Circonstance agissante, c'est qu'elle va jouer pour la première fois.
La mouette Tchekhov.
La mouette de Tchekhov. C'est qu'elle a quitté, elle a fait le mur. Hein. Elle s'est sauvée de chez ses parents pour aller rejoindre Treplev pour pouvoir jouer la représentation devant Arkadina, Trigorine, toute cette troupe de gens célèbres de théâtre. Voilà, c'est ça. C'est ça le travail sur la situation. Donc il faut arriver à se rapprocher de cette situation grâce aux circonstances et à les comprendre de la part de soi-même. Ça encore, c'est le travail de l'acteur sur lui-même. Pour m'approcher de cette situation de Nina, j'ai besoin d'avoir une compréhension émotionnelle de ces circonstances. Donc, par exemple, de me demander, moi, quand est-ce que ça m'est arrivé ? C'est cette situation-là, ces circonstances-là, est-ce que je peux faire un parallèle ? Est-ce que je peux arriver à trouver un état mixte entre moi et le personnage ? Sinon, je vais, en quelque sorte, imiter. Mais ce n'est pas un théâtre de l'imitation, c'est un théâtre... de l'action. L'action doit obligatoirement être faite de la part de la personne.
Alors avec Vassiliev, vous avez joué le bal masqué à la Comédie Française, et puis cette relation s'est nouée au fil des ans, puisque vous êtes même parti vivre à Moscou pour apprendre auprès de lui, sans savoir le russe, puis vous y êtes revenu à Moscou, avec une bourse en apprenant le russe, où vous montez à cette époque-là une pièce qui elle aussi fait événement, qui s'appelle Médée Matériaux de Heiner Müller, qui est donc un monologue dit par l'antique Médée, qui va tuer ses enfants pour se venger de l'infidélité de Jason. Et dans ce spectacle, vous êtes assise face au public, le texte défile sur un écran, et puis vous prenez la parole, et ce sont des mots qui viennent du plus profond de l'être, du plus loin, un peu comme vous citiez Vitesse et la pitié, un peu comme on pourrait entendre la pitié.
Désolé, nous pour entendre musique que tu as joué avec les mains de ta troupe et la mienne, celle-là qui était. Et ta putain sur les corps, les os, les tombes de mon peuple. et de mon frère. De mon frère, Jason.
Valérie Dréville, pour un auditeur non averti, cela peut paraître étrange d'entendre cet extrait, mais personnellement, 20 ans après, je me souviens encore de ce spectacle comme d'un choc émotionnel à peu près sans pareil. Et dans votre livre, L'art du débutant, vous dites que pour vous, il y a eu aussi un avant et un après Médée Mathériault.
Oui, oui, certainement. Certainement, parce que pour faire ce spectacle, pour pouvoir prononcer le texte de Heiner Müller, j'ai fait des trainings. C'est pour ça que c'était pas trop d'une année pour pouvoir arriver à faire ce spectacle. Et pendant toute l'année, j'ai fait des trainings sur l'énergie du son et ce que Vassiliev appelle l'intonation affirmative. C'est-à-dire, c'est une intonation qui se plante dans le sol, parce qu'il estime que si un contenu n'est pas narratif, eh bien, il faut trouver une autre intonation que l'intonation narrative, celle qui ne fait que raconter des histoires. Ici, il s'agit d'un rituel, donc il faut trouver une intonation qui puisse accomplir ce rituel. Et l'intonation narrative ne peut pas le faire, puisqu'elle raconte.
Donc c'est un travail de la voix très important.
C'est
et
un
du
travail
corps.
Sur l'énergie du son pour arriver à ne pas être dans la force, mais que le son avance grâce à l'énergie et non à la force. Et deuxièmement, un travail sur l'intonation. Et puis après, il y a le travail de la compréhension du texte, du mythe, du sens de l'acte de Médée, tout ça, enfin, parallèlement.
Et le texte vient très tard. Vous racontez, c'est très étonnant dans ce livre, que ce sont les 10 derniers jours que vous apprenez le texte, les 10 derniers jours avant la représentation. Avant, c'est tout le travail de préparation, en fait.
Oui, oui, c'est toujours comme ça chez lui. Au moment où on apprend le texte, tout est prêt, en quelque sorte.
L'architecture, la structure.
La structure. La structure, le contenu, la mise en scène est aussi travaillée à part. Tout est travaillé sur des lignes parallèles et après on met tout ensemble.
Valérie Dréville, si vous n'aviez pas été comédienne, vous seriez devenue quoi ?
Je ne sais pas, aucune idée. Je ne sais faire que ça.
Vous ne savez faire que ça, comme Beckett disait qu'il ne savait faire que ça en écrivant du théâtre ?
Oui, mais moi je ne suis pas Beckett. Hein.
Non, mais vous enseignez, vous transmettez quand même aujourd'hui, c'est important.
C'est lui hein, qui a dit « rater mieux ». Tout à l'heure, je ne trouvais pas, je trouvais plus son nom. Et c'est Beckett.
Ah oui, ce n'est pas Vitesse, c'est Beckett qui dit « rater mieux ».
Il faut rater mieux.
Merci beaucoup Valérie Dréville. L'art du débutant est publié chez Actes Sud dans la collection Le Temps du Théâtre. Et on va au 3 bientôt sur scène, j'imagine, lors de la saison prochaine. Et puisque nous parlons théâtre, je rappelle que l'appel à écriture pour le prix RFI Théâtre se termine ce samedi à minuit. Donc à toutes les autrices et tous les auteurs qui sont candidats et qui ont un texte tout prêt, une dernière lecture et hop, prix.théâtre@rfi.fr. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Aurel Charlieu à la réalisation, émission à réécouter sur rfi.fr, sur la plateforme Pure Radio et sur les réseaux sociaux. Bonne fin d'après-midi.